Sud Info Midi, le mag avec Victoria Wallner sur Sud Radio.
Et vous le savez, vivre ses émotions, c'est très important. C'est pour ça que nous avons des invités qui vont vous en parler. Rachel Collat, bonjour.
Bonjour Victoria.
Patrick Merlevède, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avec nous sur Sud Radio tous les deux pour votre livre « Vivre ses émotions ou l'intelligence pour tous ». C'est aux éditions du Dauphin. C'est un livre vraiment que je vous conseille car vous allez comprendre plein de choses sur vos réactions, votre tristesse, toutes vos émotions qui traversent chaque jour notre vie. Alors votre livre est le résultat de 15 années de recherche quand même, de pratique dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Vous avez écrit ce livre dans le but principal d'éveiller le potentiel que chacun d'entre nous possède pour développer notre intelligence émotionnelle. Alors, ma première question est donc, mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? On va commencer par qui? Est-ce que Rachel commence?
Oui, mais je veux bien, puis je passerai la parole à Patrick après. Donc, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'observer ses propres émotions, plus celles des autres. Et en fait, on utilise l'observation de nos émotions pour agir au mieux et en totale cohérence avec soi-même, en fait. C'est ça le but, c'est d'être en paix avec soi-même et d'être une unité, d'être dans le bien-être.
Alors Patrick Merlevède, alors je dis vous avez un petit accent parce que vous êtes d'origine néerlandaise, c'est ça?
Exactement.
D'accord, mais vous parlez très bien français.
Ça va quand même. donc en fait, je dirais plutôt que la question de savoir qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin.
Oui.
Est-ce que vous levez du bon pied ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le bon pied? Si c'est le mauvais pied, est-ce que vous êtes capable de gérer cela ou est-ce que vous allez le faire montrer à tout le monde que c'est du mauvais pied que vous vous êtes levé?
Ça veut dire que, si on se lève du mauvais pied, on va le faire payer à tout le monde toute la journée. On va être insupportable, de mauvaise humeur. Alors que, justement, l'intelligence émotionnelle va nous aider à gérer tout ça. C'est-à-dire que même si on se lève du mauvais pied, on va se dire « ça va, c'est pas parce qu'on s'est levé du mauvais pied, tout va bien se passer aujourd'hui ».
Oui, on va gérer ça, on va faire certain que le monde, au moins autour de nous, n'est pas la victime de notre propre mauvaise humeur. Quoi.
Alors, nos émotions sont-elles nos amis ou nos ennemis?
Elles sont nos amis, mais elles peuvent être nos ennemis. Si on se rend compte d'une émotion et si on la gère, elle va être notre amie parce qu'elle a un message important pour nous. Par exemple, si on se fâche, il y a souvent une bonne raison pour se fâcher. Mais en étant fâché contre quelqu'un, ce n'est pas la meilleure réaction. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis fâché et comment est-ce que je vais gérer ça pour que je fasse comprendre à l'autre personne ce que je veux obtenir réellement.
Alors ce livre, c'est vrai, c'est un véritable outil pour vivre mieux avec soi-même et aussi pour aller à la rencontre des autres. J'aimerais que vous me parliez justement de la métaphore avec le coffre qu'on trouve dans le grenier.
Ok, en fait, donc moi, ce que je pense, ce livre, donc, imaginez un petit peu, vous avez une maison, que ce soit une nouvelle, une ancienne ou peut-être la maison de vos grands-parents. Vous grimpez dans le grenier et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un grand coffre. Et quand vous ouvrez ce coffre, vous avez plein de clés. Et vous prenez une clé et ça n'ouvre rien du tout. Une deuxième, troisième, quatrième. Et tout d'un coup, ça ouvre quelque chose chez vous. Et c'est simplement pour dire que ce livre, ça vous donne les clés. Et qu'en fait, les clés, vous les avez vous-même à l'intérieur. Donc c'est le petit coup de pouce, c'est la clé, c'est des moyens, de la pratique et peut-être même des exemples qui vous sont arrivés et ça permet d'ouvrir quelque chose qui est en vous. Mais en fait, les clés, vous les avez vous-même.
Donc
voilà.
On va essayer jusqu'à 15h de donner quelques clés à nos auditeurs, auditrices. Alors si vous-même, vous êtes très émotionnel, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, pour vous c'est un vrai problème avec les personnes de votre famille ou au travail, venez témoigner sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 ou par SMS Sud un espace, votre message et vous l'envoyez au 71 200.
Sud Info Midi, le mag, jusqu'à 15h sur Sud Radio.
Vivre ses émotions, l'intelligence émotionnelle pour tous. C'est un livre édité chez Le Dauphin. Et avec nous, Rachel Collat et Patrick Merlevède pour nous en parler justement. On a parlé à l'instant justement de l'intelligence émotionnelle, ce que c'était, et aussi de nos émotions qui peuvent être aussi nos amis et aussi, parfois, nos ennemis. Alors, c'est vrai qu'on connaît assez mal l'importance de nos émotions. Pourtant, elles ont quand même une place fondamentale dans la communication entre personnes. Entre les autres, entre nous. Rachel?
Oui, tout à fait. Donc, ce qui était important, en tout cas de ma part, c'est de savoir, quand on a une émotion, le message. Donc, voir pourquoi, d'où ça vient. À partir du moment où l'émotion a délivré son message, elle n'a plus vraiment raison d'être. Donc, si on est déjà un peu plus en cohérence avec nous-mêmes, à nous connaître un petit peu plus, on a fatalement une meilleure communication avec l'autre. L'autre réagit aussi. Il a ses propres émotions. Et il faut savoir qu'on fonctionne sur un schéma de vie. Chacun, on a nos propres modes d'emploi, en fait. Donc, c'est parfois très intéressant de voir de la façon d'une autre personne et pas rester toujours avec la même façon de voir.
Alors, nos modes d'emploi, Rachel Colas, ça vient d'où ? Ça vient de l'enfance ?
Oui, ça peut venir de l'enfance, de nos croyances, de nos valeurs, de ce que la famille nous a inculqué, de nos expériences de vie. Donc, c'est parfois intéressant, on a nos propres lunettes de la façon de regarder la vie, de temps en temps changer de lunettes pour voir les choses autrement.
Alors, comment justement l'intelligence émotionnelle limite l'impact des émotions parasites dans notre vie quotidienne ?
Comment
ça agit l'intelligence émotionnelle à ce moment-là ? Pour régler ces émotions parasites.
Je donne un exemple.
Oui.
Par exemple, si on est frustré et si on ne se rend pas compte que la frustration, ça apporte une certaine... être fâché, on risque d'être fâché contre son interlocuteur, même si cette personne-là n'a rien à voir. Par exemple, je peux être frustré parce que j'étais... par exemple, il y avait un train qui était en retard, je ne suis pas tellement patient, et ensuite soit je me sens mal à l'aise. Si je ne me rends pas compte du fait que je suis mal à l'aise à cause d'un train que j'ai raté ou je ne sais pas, je peux me fâcher contre un interlocuteur qui n'a rien à voir dans le problème. Donc parfois, on se fâche, mais la question est de savoir est-ce que je me fâche pour la bonne raison, contre la bonne personne et pour la bonne, au bon moment. Et parfois, c'est ça le problème. On montre ses émotions, on les canalise envers une personne qui n'a rien à voir dans le problème. Un exemple serait en rentrant du soir, si on a eu une mauvaise journée au travail, on se rend pas forcément compte qu'on est très fort stressé à cause de la journée de travail et c'est la famille qui avale
oui qui va trinquer hein.
Voilà.
On arrive, on est très énervé, en fait c'est au boulot que ça s'est mal passé. Alors justement, comment gérer ça à ce moment-là quand on sait que bon, c'est par le stress d'une journée difficile au travail, quand on rentre, comment faire pour que la famille ne prenne pas tout dans la figure hein.
Si on rentre du travail où on a eu des contrariétés ou de la fatigue ou de l'agressivité, qu'importe, il faut déjà se rendre compte. Donc ça génère une émotion. Maintenant, il y a différents trucs. On peut par exemple soit prendre une bonne respiration ou soit profiter du chemin de retour vers sa maison pour écouter de la musique. On peut en fait changer l'émotion quand on veut. C'est une capacité que l'être humain a et je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Donc, allez, un exemple. Quelqu'un, justement, on parlait du train. Quelqu'un a raté son train. À quoi bon s'énerver ? De toute façon, on n'a pas la responsabilité sur ça. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver ou autre. Autant garder le sourire et profiter de l'instant présent. Ça paraît fort basique, mais il y a des différents petits trucs que nous reprenons dans le livre.
Alors, lesquels, par exemple ? Parce que moi, franchement, quand je vous écoute, Rachel, je me dis, bon, moi, je suis très énervée. Même si je me dis que non, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça, etc. Je vais quand même être très énervée, même si je me le dis. Hein.
Oui, un exemple qui est repris même dans le livre. Et ça m'est arrivé personnellement. Donc en fait, j'avais raté un train à Thalys. Et donc, c'était pas sous ma responsabilité. Eh bien, j'ai profité du train suivant, même si ça occasionnait probablement un retard, à regarder autour de moi. Je savais quand même rien changer. Donc, j'ai gardé le sourire. Je parlais avec le contrôleur, avec des personnes qui étaient aux côtés de moi. J'ai failli rater le métro à Paris. Mais en gardant le sourire, il y a des personnes qui ont entendu qu'effectivement, j'allais risquer d'être en retard à un rendez-vous. Et j'ai une personne qui m'a offert un ticket de métro. Donc, si je m'étais énervée, si j'étais restée de mauvaise humeur, est-ce que j'aurais eu ce fameux ticket de métro ?
Certainement pas, c'est vrai.
Voilà. Donc, je pense que quand on a un ennui, si ce n'est pas de notre responsabilité, et si on se rend compte du message de l'émotion, on peut le changer, sincèrement.
Alors si vous-même, hein, vous êtes très émotif, ça vous embarrasse dans votre vie, vous ne savez pas comment gérer tout ça, eh bien n'hésitez pas à nous appeler hein, pour poser toutes vos questions 0826 300 300 ou par SMS, Sudan Espace, votre message et vous l'envoyez au 71 200. Avec nous, il y a Fabienne d'Orthez. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour Sud Radio.
Alors vous êtes très expressive, très émotive, ça veut dire un petit peu ça aussi, hein, je crois.
Non, peut-être pas trop émotive. Peut-être pas trop émotive, mais expressive, expansive, oui.
Ça veut dire que si vous êtes fâchée, vous allez le faire savoir.
Ça se voit, voilà. Je suis chez moi que ça ne se voit pas. Alors, et je vais surtout pour un témoignage, oui. quelque chose de très précis qui a bouleversé ma vie.
Allez-y.
Enfin, je pense. C'est l'analyse que j'ai faite avec le recul. En 90, j'ai eu dans la route spectaculaire. Mais vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire.
Oui.
Ce qu'on appelle une miraculée de la route.
Mmh.
Et j'ai beaucoup pris sur moi parce que je transportais quelqu'un, je me suis sentie responsable, etc. Seul oui. moment, cette personne criait comme si elle était paralysée. Enfin, ça a été, je ne peux pas le raconter, ce serait trop long, mais ça a vraiment été très, très, très spectaculaire, très impressionnant. Et je voulais assumer la personne que je transportais.
C'est vous qui conduisiez, donc, hein, on est d'accord.
Moi qui conduisais, voilà, mmh. j'évitais un camion. Je n'étais pas du tout responsable.
Mmh.
Non, j'évitais un camion, je n'étais pas responsable. Et je me suis sentie responsable de cette personne.
Donc, vous avez culpabilisé.
Du magasin à ouvrir, il a fallu que j'arrête un véhicule, que je traverse un champ, je me suis passée à travers des barbelés, je me suis fait couper, je m'en suis même pas rendu compte. Enfin, ça a été très lourd, on va dire.
Mmh.
Et j'ai voulu travailler absolument. Au bout de quelques jours, le médecin m'a arrêté parce que ça n'allait pas. J'avais vraiment des coups de partout. Et là, j'ai, comment dire, mes premiers temps d'arrêt maladie, j'avais des cauchemars en pleine nuit, mmh. des angoisses la journée, etc. Et mon compagnon ne le supportait pas. Ça m'arrivait de me réveiller en pleurs, etc. Enfin, tout ça ressortait, forcément. Mmh. Comme j'avais beaucoup pris sur moi pour cet accident, c'est ressorti. Et comme mon compagnon ne le supportait pas,
oui.
j'ai tout intériorisé.
Donc vous n'avez plus pleuré, vous avez évité de...
J'ai tout gardé.
Vous avez fait attention, vous avez contrôlé. Alors vous avez complètement contrôlé, Fabienne, vos émotions. Hein.
Voilà, j'ai tout enfoui, on va dire, et des tonnes de mouchoirs par-dessus. Mais le souci, c'est que j'ai déjà commencé à prendre 10 kilos dans le mois.
Mmh. D'accord.
Donc, je pense que les émotions, il faut quand même qu'elles sortent quelque part.
Oui.
Alors après, il faut gérer, il faut apprendre à les gérer, ce qui n'est pas toujours évident.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait vous-même, Fabienne ?
Ah, ben, j'ai fait que j'ai tellement encaissé pour avoir la paix, pour ne pas avoir de reproches, etc. Puis ça s'est manifesté par une très grande prise de poids. Ça a commencé par 10 kilos dans le premier mois, et ces kilos, je n'ai jamais réussi à les tomber. Voilà. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau des soins médicaux, des examens, etc., hospitalisés dans les services spécialisés. On ne me trouvait rien, rien d'analyse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'avais rencontré une psy sur Bordeaux, donc dans un hôpital spécialisé en endocrinologie. Il m'avait dit que j'avais fait une carapace, donc de tous ces problèmes. Et j'aurais dû, au contraire, quitte à faire une petite dépression, pleurer, crier. Enfin, il fallait ressortir tout ça, voilà. Il ne fallait pas garder. Par rapport à ce témoignage, surtout.
On va demander à Rachel et à Patrick. Hein. C'est vrai, Rachel et Patrick, quand il nous arrive un accident comme ça ou n'importe quoi d'autre dans la vie, un deuil ou on se fait quitter, par exemple, une séparation, un divorce, souvent, eh bien, on enterre tout ça hein, à l'intérieur de soi, on n'exprime pas. Et bon, c'est prise de poids, c'est aussi problème de santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut se faire à ce moment-là ? Est-ce que quand il nous arrive quelque chose, un gros pépin, que faut-il faire ?
Merci beaucoup à Fabienne pour son témoignage. Et c'est vrai qu'elle a intériorisé vraiment toutes ses souffrances et tout. Et les émotions, on a beau dire qu'il faut les gérer, mais il faut les vivre aussi. On ne doit pas les cacher, elles doivent sortir. Elles ont un message. Donc le fait de ne pas laisser sortir une émotion, c'est vraiment la laisser à l'intérieur. Et donc elle ne délivre pas son message. C'est un peu comme une enveloppe qu'un facteur veut mettre dans la boîte aux lettres et la boîte aux lettres, elle est fermée à clé. Il n'y a pas moyen de... Et le facteur, il vient tous les jours mettre son enveloppe et non, ça ne rentre pas. Alors du fait, qu'est-ce qui se passe ? On n'a jamais cette lettre, on n'a pas ce message-là. Et donc Fabienne n'a pas su laisser course à ses émotions. D'où la prise de poids, c'est un peu comme, si je peux me permettre Fabienne, un peu comme un oiseau qui est un peu grossi pour se protéger en fait. Elle s'est protégée.
Alors qu'est-ce qu'elle aurait dû faire Fabienne par exemple ?
Aurait dû faire, ça c'est un gros mot. Je ne vis pas malheureusement exactement ce que Fabienne a vécu et ça doit être quelque chose de très lourd. Maintenant, faire taire ses émotions alors qu'elle devait sortir, c'est bien quand même d'écouter son corps et probablement d'être suivie pour la rassurer, retirer la culpabilité. Et c'est quand même quelque chose de très, très dur qu'elle a vécu. Donc, ce qu'elle aurait dû faire, on sait, je pense qu'à un moment donné, à chaque instant, la personne réagit au mieux au moment donné. On fait toujours le mieux qu'on peut au moment donné, dans les circonstances.
Oui, non, mais c'est vrai que souvent, c'est l'entourage. Hein, elle disait, c'est son petit ami qui lui reprochait de se réveiller la nuit en pleurs, de faire des cauchemars. Ça l'embêtait. Franchement, le petit ami, il n'est pas trop sympa, je trouve. Parce que souvent, des souffrances, c'est vrai qu'il aurait dû quand même peut-être aussi la soutenir dans ces moments-là. Alors, en tout cas, pour Fabienne, le mieux, de toute façon, c'est de faire une thérapie. C'est quoi le mieux ?
En tout cas, de pouvoir parler de tout ce qu'elle a refoulé au fond d'elle-même et laisser libre cours à ses émotions et qu'elles soient évidemment canalisées probablement par quelqu'un qui saura lui redonner un petit peu aller son bien-être intérieur. Mmh. En tout cas, c'est ce que je vois maintenant. Mmh. Chacun est responsable aussi de ses émotions, de les montrer ou de les cacher. Mais l'important, en tout cas, quelle que soit la façon, que ce soit le fait de le dire, de le crier, d'être fâché, de pleurer ou quoi, l'important, c'est de connaître au moins ce qui est caché derrière l'émotion, de connaître le message de son émotion.
Donc, en ce cas, là, s'il aurait pu parler à des amis au lieu de son ami, c'est pas son petit ami qui laissait la chance, chercher quelqu'un d'autre à qui on pouvait en parler. À la limite, s'il n'y a personne d'autre, un thérapeute peut aider, mais ça veut dire qu'on n'a pas trouvé quelqu'un dans son propre entourage qui peut le permettre. Mmh. La question de l'émotion, de savoir, bon, si j'ai vraiment peur de conduire une voiture, bon, c'est vrai qu'il y a certaines raisons d'avoir peur. Chaque moment qu'on roule une voiture, il y a un risque réel. Mmh. Mais si on se prend trop le risque sur soi, on va peut-être créer plus un danger sur la route que si on se rend compte qu'il faut être bien vigilant en conduisant. Mais que notre intuition et nos émotions peuvent nous aider à tenir compte des risques de la route. Parce qu'en fait, un camion, n'importe quand on roule sur la route, il y a des camions qu'on doit passer. Donc chaque fois, il faut se poser la question, comment est-ce que je vais vivre ça sur ce moment-ci? Quel risque, quel piège, comment est-ce que je peux m'éviter? Comment est-ce que je peux éviter d'être cogné par un camion.
Oui, comment éviter évidemment l'accident après avoir eu soi-même un accident. Restez bien avec nous, Rachel et Patrick. Je rappelle votre livre, hein, « Vivre ses émotions ou l'intelligence émotionnelle pour tous » aux éditions du Dauphin. Et Fabienne, merci beaucoup d'avoir bien sûr témoigné sur l'antenne de Sud Radio. On va bien sûr, vous-même, vous pouvez poser vos questions et aussi témoigner si vous êtes trop émotif, si cela vous gâche la vie, 0826 300 300 ou par SMS au 71 200.
13h30, 15h, Sud Info Midi, Le Mag, avec Victoria Wallner sur Sud Radio.
Et nous parlons de vos émotions, de nos émotions à tous, qui nous guident dans notre choix, dans nos choix quotidiens, notre vie quotidienne. Elles orientent nos actes, elles nourrissent nos pensées. Et aussi, si elles ne sont pas exprimées, eh bien, elles peuvent devenir destructrices. Nos spécialistes Rachel Collat et Patrick Merlevette répondent à toutes vos questions. Alors, vous n'hésitez pas. Et ils sont là aussi pour vous aider eh bien, à vivre vos émotions, pour être mieux dans votre peau. Alors, si vous-même, vous êtes trop émotive, cela vous gâche la vie, vous ne savez pas comment faire, 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. Rachel et Patrick, je rappelle votre livre « Vivre ses émotions ou l'intelligence émotionnelle ». Pour tous, c'est aux éditions du Dauphin. On parle bien sûr d'intelligence émotionnelle, mais comment repérer les souffrances émotionnelles qui sont source quand même de blocage et d'inhibition dans notre vie, Rachel ?
Comment ? Quand vous ressentez quelque chose, que vous avez par exemple un malaise, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Victoria, par exemple, de vous lever et au cours de la journée de vous dire il y a un petit truc qui ne va pas là, il y a quelque chose qui chiffonne.
Comme la petite voix qui nous parle un petit peu.
La petite voix qui nous parle, oui, mais vous avez une espèce de petit malaise, vous ne savez pas très bien ce qu'il en est. Donc en général, ce qu'on fait, on se dit pourquoi est-ce que je suis comme ça, jusqu'au moment où on met ah oui. C'est peut-être parce que j'invente, parce qu'on doit aller à un rendez-vous quelque part et que ça nous fait un petit peu peur ou quoi. À partir du moment où vous avez identifié d'où ça vient, à vous de choisir de dire « Ok, ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'embête. Est-ce que je dois laisser ce sentiment continuer à me poursuivre? Est-ce que vraiment je dois me mettre dans cet état-là? Est-ce que ça va changer quelque chose de me mettre dans cet état-là ?» Donc, si déjà on sait prendre une conscience, en tout cas de l'émotion, il y a plein d'optiques qui s'offrent à nous pour pouvoir changer cette émotion et mieux la vivre.
Alors, des émotions d'angoisse. Effectivement, j'ai un rendez-vous important, j'ai un petit peu peur, je m'angoisse avant la rencontre, avant l'entretien. Comment fait-on pour se sentir mieux et être, transformer cette émotion, justement, un petit peu quand même négative, hein, puisqu'il y a de l'angoisse derrière. Comment la transformer en positive ?
D'abord, il faut se rendre compte que l'angoisse, en fait, est un message important avant le rendez-vous. Il faut se poser la question... Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour préparer le rendez-vous? Mais au moment que le rendez-vous est là, cette émotion-là ne sert à rien. Donc si on reste angoissé pendant l'entretien, ça va mal se passer. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une émotion négative. Une émotion négative, c'est un message important pour nous, mais au moment quand on doit vraiment faire quelque chose, cette émotion va presque nous bloquer pour faire ce qu'il faut vraiment faire. Donc au lieu de rester dans l'émotion, la question est de savoir faire l'analyse. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Donc, ça, c'est l'idée de notre mantra. J'ai compris le message de l'émotion. Je vais faire quelque chose. Je vais tenir compte des autres. Et puis, je vais aller à une émotion plus utile qui va m'aider à obtenir le résultat que je veux vraiment avoir. Donc, au moment de l'entretien, il faut se poser la question, qu'est-ce que des meilleures émotions que je peux avoir qui va m'aider à passer cet entretien d'une façon qu'elle est plus agréable pour moi-même?
Et à ce moment-là, il y a une réponse qui vient, on arrive à gérer tout ça?
J'espère pour vous que ça arrive au moment même.
Oui, vaut mieux.
Au moment même, le conseil qu'on a pour tous les écouteurs, c'est de se dire, le soir, c'est de se rendre compte, après la fin de journée, qu'on a eu une mauvaise émotion, et de regarder qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour que la fois prochaine que cela se passe, je vais faire mieux que cette fois-ci, quoi.
Alors, vous avez justement parlé du mantra. Hein, c'est un petit peu, c'est comment aller de la théorie à la pratique. Hein, donc, voilà. Avec le mot mantra. Alors, par exemple, le M de mantra, ce sont les émotions qui sont là. Donc, comment s'en rendre compte que justement on a des émotions? Parce que parfois, on croit que si on est énervé ou si on est triste, des fois, c'est normal. C'est parce qu'il se passe des choses. Alors que il faut quand même se rendre compte de ces émotions au moment précis, hein, où elles arrivent.
Donc au moment qu'on est énervé, la question est de savoir pourquoi est-ce que je suis énervé.
Voilà.
Donc, le fait d'être énervé, ça c'est le message. Puis il faut passer à l'analyse et de se rendre compte qu'il y a une bonne raison pourquoi je suis énervé. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Une fois que je comprends ce que ça veut dire, la question est de savoir qu'est-ce que je veux faire réellement. Qu'est-ce qui va m'aider plus que de rester énervé? Et en se posant cette question-là, l'émotion d'être énervé peut s'en aller et peut laisser la place.
Donc, en fait, Patrick, à chaque fois qu'on a une émotion, c'est se demander pourquoi, en fait.
Voilà.
C'est ça.
Hein. Et on a 600 émotions par jour. Donc,
600 émotions par jour.
En moyenne, oui.
Ouh là là, alors on va se poser 600 questions, alors.
Il faut mieux être vigilant parce que...
Ouais. Alors souvent, évidemment, je pense qu'on a souvent les mêmes émotions. Ça reste quand même assez, par exemple, je veux dire, la tristesse, la colère, le stress. Ce sont les émotions qu'on rencontre le plus, non?
Oui, c'est vrai. Donc on peut...
La colère, bien sûr, en premier, je suppose.
On peut se faire tout simplement, si on prend, si on regarde une fois pendant une semaine, quelles sont les émotions les dominantes qu'on a eues, on peut se poser la question à la fin de la semaine, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours cette même émotion qui me retombe dessus?
D'ailleurs, vous préconisez dans votre livre de tenir un journal de ces émotions pendant une semaine.
Exactement.
Et alors là, tous les jours, on note à peu près ce qu'on a eu comme émotion négative, positive aussi, parce qu'on parle des négatives, bien sûr, parce que c'est quand même celle-ci qui nous gâche la vie en général.
Le but est finalement de n'avoir que des émotions positives. Si on gère tous ceux qui sont négatifs, à la fin, il reste ceux qui sont positifs. Ça, c'est le but final du livre. C'est en gérant ces émotions négatives, c'est d'avoir plus de temps d'émotions positives.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas envie ou pas le temps de tenir un journal, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Par exemple, en rentrant le soir dans la voiture ou dans le train ou le bus, n'importe, se poser la question pendant quelques minutes, quels sont les moments que j'ai vécu pendant la journée? Et que pourrais-je faire mieux la fois prochaine que je vis cela?
D'accord. Alors bien sûr, dans le mot mantra, ça c'est votre, vraiment votre mot. Hein. On a dit à l'instant pour le M, c'est les émotions qui sont là, comment s'en rendre compte. Le A, c'est que signifie mes émotions, on va en parler. Et surtout, N, c'est la norme. Alors qu'est-ce qui est important pour moi? Que dois-je faire de ce message? Alors c'est comment justement transformer l'émotion qui nous arrive, hein.
Chaque émotion
a un message.
Un message et un norme derrière. Donc, si je me fâche, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a sauté une barrière laquelle je ne veux pas permettre. Donc, la norme, c'est la barrière que je me mets quelque part. Donc, il faut se poser la question, cette barrière que je mets, est-ce que c'est une bonne barrière? Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que j'exagère là-dedans. Donc, ça, c'est la question de norme. C'est qu'est-ce que je veux réellement obtenir? Et est-ce que c'est réaliste ou pas?
Alors, le T pour totalité, un mantra, comment vivre avec les émotions des autres, comment trouver le juste milieu, parce que souvent, c'est vrai que nos émotions, elles découlent de d'autres personnes qu'on a en face de nous, hein, ou un coup de fil qu'on vient d'avoir, surtout pour les négatives.
Oui, tout à fait. Donc, par exemple, c'est important d'identifier les émotions des autres, parce que rien à faire, on vit en permanence la communication avec les personnes autour de nous. Donc, déjà, se comprendre soi-même, ce n'est pas facile, mais en plus, avoir une communication avec l'autre, ce n'est pas évident. Donc, imaginons maintenant que vous êtes quelque part, hein, que ce soit un repas avec des tas de gens ou que ce soit une réunion ou quoi, et puis vous voyez quelqu'un qui fait des grimaces devant vous. Vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Pourquoi il me fait des grimaces? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je suis stupide? Ou ça peut renvoyer à des tas de choses. Si ça tombe, peut-être que la personne a simplement mal aux dents ou qu'elle réfléchit à quelque chose. Que sais-je? Donc, il y a des fois, on a interprète des réactions d'autres personnes à notre rencontre selon nos valeurs, selon notre filtre, selon nos croyances, selon notre façon de fonctionner, qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'autre veut dire. Et c'est ça qui entraîne parfois une mauvaise communication. Donc quand quelqu'un a un comportement, c'est parfois bon de se dire pourquoi a-t-il eu ce comportement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement qui fait qu'il fonctionne comme ça? Par exemple, je sais pas moi, vous sautez un saut à l'élastique. Quelqu'un adore sauter à le saut à l'élastique. Vous allez peut-être trouver ça, mais c'est complètement aberrant, mais il est fou, pourquoi il fait ça, quelle idée. Mais peut-être que la personne qui fait ça aime justement les émotions fortes, parce qu'il a l'impression d'exister, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a des tas de raisons à faire ça. Et une fois qu'on connaît la raison, si par exemple on dit, ben oui, mon collègue, il fait du saut à l'élastique parce qu'il adore découvrir des nouvelles choses. C'est beaucoup plus compréhensible que de dire, bah oui, il saute à l'élastique. Ou même chose avec les tatouages, ou que sais-je, quel que soit l'exemple, en fait. Donc, comprendre la motivation qu'il y a derrière le comportement de quelqu'un, ça nous permet de mieux comprendre la personne, donc d'avoir une meilleure relation avec l'autre.
Donc, l'objectif de l'intelligence émotionnelle est d'abord d'apprendre à vivre, surtout avec soi-même, pour pouvoir vivre avec les autres. Vous restez bien avec nous, Rachel Collat et Patrick Merlevède. Je rappelle votre livre, hein, « Vivre ses émotions ou l'intelligence émotionnelle pour tous » aux éditions du Dauphin. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, bien sûr, les coordonnées du livre de Rachel et de Patrick, vous m'envoyez un petit mail, victoria@sudradio.fr, et je me ferai un plaisir de vous donner ces coordonnées, car c'est un livre vraiment passionnant, très intéressant. Et si vous-même, eh bien, vous êtes trop émotif, vous n'arrivez pas à vous en sortir avec vos émotions, ça vous gâche la vie, 0826 300 300 ou par SMS au 71 200 pour venir témoigner sur l'antenne de Sud Radio.
Sud Info Midi, le mag, Victoria Valner, sur Sud Radio.
Et nos émotions nous guident dans notre choix quotidien, dans nos choix quotidiens. Ils orientent aussi nos actes. Ça oriente beaucoup de choses dans notre vie. Justement, Rachel Collat et Patrick Merlevède, vous êtes avec nous pour votre livre « Vivre ses émotions ou l'intelligence émotionnelle pour tous ». On va rappeler quand même à nos auditeurs et auditrices, pour ceux qui viennent et celles qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? Rachel ?
Oui, donc l'intelligence émotionnelle, c'est en fait pouvoir observer ses propres émotions, découvrir quel est le message caché derrière les émotions, de faire ça avec soi-même et avec les autres, et d'utiliser cette observation comme un guide de nos propres émotions. Donc ça, et de pouvoir y mettre nos actions, en fait. Donc c'est très important de comprendre pourquoi on réagit, pourquoi on a telle émotion, quelle est la raison, pour évidemment mieux adapter notre comportement dans notre vie avec nous-mêmes et avec les autres.
Alors justement, on parle de nos émotions qui souvent nous submergent, hein, et qu'on n'arrive pas bien sûr à contrôler. Quel est le premier principe de base pour contrôler ces émotions? Vraiment le premier, qu'est-ce qu'il faut se dire? Bon, il y a la respiration, il y a quoi d'autre?
Oh oui, donc la première des choses, c'est savoir le pourquoi, le message de l'émotion. Ça, c'est la première chose.
Donc toujours se poser cette question, pourquoi j'ai cette émotion à ce moment-là?
Oui,
pourquoi telle chose m'énerve ou me met en colère?
Voilà, par exemple. exemple, imaginons, je me mets en colère très forte avec mon collègue parce que il a, par exemple, refusé de changer d'horaire avec moi-même. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a refusé ? Moi, ça me met en colère terrible. Pourquoi ? Parce que j'invente, hein, parce que j'avais la communion de mon fils ce jour-là et mon collègue n'a pas voulu changer d'horaire avec moi parce que j'avais la communion de mon fils ou de ma fille. En fait, ma colère vient pas spécialement à l'encontre de mon collègue, mais c'est parce que c'était une valeur familiale qui était très importante pour moi. Et cette valeur a été bafouée. Donc à partir du moment où on comprend déjà pourquoi vient cette colère, la colère peut s'en aller et expliquer, ben voilà, écoute, ça est important pour moi, n'y a-t-il pas moyen de s'arranger et trouver d'autres moyens de communication au lieu de se mettre en colère, par exemple. Parce que la colère, elle ne va pas aider à vouloir avoir une bonne négociation.
Et surtout, arranger les choses. Mais justement, certaines de nos émotions, elles nous font souffrir quand même. Hein. C'est une souffrance, une vraie souffrance pour certaines personnes. Alors, comment faire pour éviter de souffrir?
Le problème, c'est qu'en souvent, on choisit de souffrir. Et pendant qu'on est en train de souffrir, on ne se rend pas compte qu'il y a un autre choix. Et la question est de savoir combien de temps est-ce que j'ai encore envie de continuer de souffrir, au lieu de me poser la question, mais pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir et quoi d'autre pourrais-je faire pour réduire ma souffrance? Donc les émotions, en fait, c'est comme une goutte d'eau. Si vous prenez la même chose pour un incendie. S'il y a un petit incendie, si je jette une cigarette au printemps, en Provence, il n'y a pas grand-chose qui va s'arriver. Mais si tu fais la même chose au milieu de l'été, avant qu'on le sache, il y a toute une forêt qui est partie en fumée. Et les émotions sont la même chose. Si on prend une cigarette et si on l'éteint rapidement après qu'il y ait un petit feu qui commence, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Si on ne l'éteint pas, la forêt est partie. Les émotions sont similaires. Si j'écoute l'émotion au moment qu'elle apparaît, ça ne me prend pas beaucoup d'énergie pour résoudre le problème.
Donc il faut tout de suite résoudre le problème le plus vite possible.
Voilà, sinon j'ai un incendie qui me fait détruire la forêt en Provence chaque été.
Nous avons un SMS de Karine hein, qui est de Bayonne qui nous demande, moi mes émotions me rendent asociale et c'est un vrai problème pour tous les jours. Faut-il que voir un psy ?
Maintenant, donc merci à Karine d'avoir envoyé le SMS. Maintenant, quand elle dit asociale, donc il faut déjà voir dans quelle mesure elle a ses émotions, mais il faudrait une bonne idée peut-être serait de marquer ses émotions sur un carnet et de voir quelle est l'émotion qu'elle a le plus et voir ce qui se cache derrière ce mode de fonctionnement en fait. Parce que un autre exemple, imaginons vous travaillez, je sais pas, dans un magasin et ou quel que soit, vous faites agresser par un collègue ou par un client ou quoi. Et vous avez plusieurs façons de réagir. Soit vous prenez la critique à titre personnel, soit vous vous remettez derrière simplement la procédure qui est mise en place au niveau du travail, ou alors vous pouvez vous dire, est-ce que dans 5 ans, est-ce que ça vaut la peine que je m'énerve face à ce client ? Où est-ce qu'il sera cette image de client agressif dans 5 ans ? Donc ce qui est important aussi, c'est de remettre un petit peu les choses à leur vraie valeur. Est-ce que c'est important de m'énerver pour une chose aussi simple ? Des fois, le fait de remettre les choses à plat, les choses à leur juste valeur, permet un petit peu de décanter les choses aussi. Ou même de rajouter un peu d'humour. Parce que l'humour fait des miracles aussi. Je ne dis pas qu'il faut se rouler par terre si un client nous agresse. Hein. J'ai pas dit
non,
ça.
Mais le prendre avec dérision, en tout cas.
Voilà. Tout dépend un petit peu aussi de la situation. Mais en tout cas, ne peut-être pas prendre l'agressivité pour soi. Parce qu'il y a peut-être la personne réagit d'une telle façon pour certaines raisons aussi.
Et il y a Julie de Montpellier par SMS également au 71-200 qui nous dit, est-ce qu'il faut des fois vraiment pleurer pour tout lâcher ? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ce n'est pas vraiment indispensable de pleurer ?
Personnellement, donc pour moi, je pense que ça fait du bien de pleurer parce que c'est un peu comme laver toute une tristesse, refouler ses larmes, garder un gros corps, quelque chose qui est en gros en nous. D'une manière ou l'autre, si on a un gros chagrin, ça va sortir. Parce que si on n'écoute pas son émotion, le corps va la sortir d'une façon. Donc ça va être peut-être par l'eczéma, ça peut prendre différentes formes. Donc pour moi, l'émotion, si on doit pleurer, pleurer un bon coup, on dit toujours, ça fait du bien.
Surtout ne pas se retenir dans ses émotions, surtout si on a envie de pleurer. Oui.
Le fait de pleurer, ça aide à donner une place à quelque chose qu'on a perdu. Donc là, si c'est par pleurer que ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas comme ça, la question de savoir comment est-ce que je peux donner ce que je viens de perdre comment est-ce que je vais donner ça une place dans ma vie. Mmh. Et parfois, c'est par pleurer que ça va marcher. Pour d'autres personnes, c'est en se posant la question et en donnant un sens à ce qui vous arrive que ça va marcher. Mmh. Il n'y a pas une bonne solution, mais la question de savoir qu'est-ce qui marche pour moi pour gérer une chose mauvaise qui m'arrive.
Alors c'est vrai que justement une chose mauvaise qui m'arrive, un problème, un souci, ça ce sont nos émotions, mais des fois on est de très bonne humeur, tout va bien, et c'est plutôt les émotions des autres qui nous gâchent la vie, hein. Alors est-ce important justement d'identifier les émotions des autres?
Certainement.
Comment fait-on? C'est aussi dire il est énervé, elle est énervée, je passe outre, je ne fais pas attention à ce qu'il me dit dans sa colère.
Ça dépend de la personne, parfois il faut nommer l'émotion et de dire tu me sembles énervé, qu'est-ce qui ne va pas?
Oui, c'est surtout l'interprétation qui est difficile, voilà. Parfois.
Mais en posant la question à la personne, qu'est-ce que ça veut dire l'émotion que je vois, pourquoi est-ce que tu t'énerves?
Pourquoi tu t'énerves?
Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois ça aide, souvent si on laisse la chance aux gens de dire qu'est-ce qui ne leur va pas, ça leur donne la chance de le placer et ça aide plus facilement à passer outre que si on essaie de l'ignorer.
C'est important de poser des questions. Donc, si on est en contact avec quelqu'un et que l'autre personne semble énervée ou que la relation a du mal à passer et que nous, on se sent bien, il y a de toute façon une raison au comportement de l'autre. Et si ça tombe, la raison n'a rien à voir avec nous. Hein, c'est probablement une raison externe. Donc, le fait de poser des questions, évidemment des questions à droite, des questions ouvertes, hein, pas des questions accusatrices, en disant « Tiens, je ressens que tu es énervée. » qu'est-ce qui se passe? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va permettre aussi à l'autre d'avoir une place dans la communication. Et le fait de dire « je ressens que tu es comme ça », ça n'implique que nous-mêmes, ce n'est pas une accusation non plus. Donc si l'autre répond « oh ben non, c'est ce que tu ressens », ok, ben voilà. Mais on a laissé la place et la chance à l'autre de s'exprimer. Donc on a fait une ouverture vers l'autre aussi. Maintenant, c'est l'autre qui doit... voilà.
Alors justement, les émotions sont très importantes. Hein. On en a, vous avez dit tout à l'heure, 600 par jour à peu près. Et ces émotions peuvent-elles perturber nos décisions? Est-ce qu'on peut faire des mauvais choix à un moment donné à cause de nos émotions?
On risque de faire de mauvais choix pour deux raisons. Parce qu'on n'écoute pas nos émotions et parce qu'on se laisse faire par certaines émotions. Par exemple, si je suis fâché, il y a une bonne raison, il y a quelque chose que je veux faire respecter. Si je reste fâché à ce moment-là, je ne vais pas, souvent, pas être capable de trouver une solution rationnelle qui va être la meilleure dans ce cas-là. Donc, en restant dans l'émotion négative, souvent je perds toute une partie de mes possibilités de trouver une meilleure solution. Donc, une émotion peut éviter de trouver la meilleure solution. D'autre part, si j'ai une mauvaise émotion, si je ne m'en rends pas compte, là aussi, je risque de perdre mes capacités rationnelles de prendre la meilleure décision. Mais en tout cas, les émotions jouent toujours un rôle dans une décision. Chaque décision, même si elle est soi-disant rationnelle, il y a un fond émotionnel en dessous. N'importe quelle personne qui a acheté une voiture, si on pose vraiment la question pourquoi est-ce qu'elle a acheté la voiture, on va toujours trouver des éléments émotifs là-dedans.
Alors, c'est vrai que dans votre livre, hein, au départ, il y a un questionnaire. Il faut aller sur un site, hein, donc oui. vous le trouverez bien sûr dans le livre. Hein. Quel genre de questions vous posez dans ce questionnaire?
Savoir, est-ce que la personne fait attention à ses émotions? Est-ce que la personne, si elle travaille avec des autres, est-ce qu'elle fait attention aux émotions des autres? Est-ce qu'elle va chercher la signification des émotions? Est-ce qu'elle va chercher comment je peux obtenir le meilleur résultat avec la personne? Est-ce qu'on laisse l'autre personne le bénéfice du doute, comme Rachel l'a dit tantôt? Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que la personne a essayé de faire de mieux? Et moi, souvent, je parle de la présupposition de toute chose que la personne fait. Pour elle, c'est le mieux qu'elle a pu faire en ce moment-là. Donc, en tenant compte de ces éléments-là, on va voir, est-ce que la personne, dans quelle mesure, est-ce que quelqu'un qui remplit le questionnaire maîtrise déjà la matière du livre? Et on va lui aider à se rendre compte, si on prend notre livre, où sont les éléments où il faut faire plus attention en lisant le livre, où est-ce que le plus grand avantage en utilisant le livre pour cette personne-là.
Alors c'est vrai que l'objectif quand même de votre livre, hein, c'est apprendre vraiment à vivre avec les autres.
Hein. Et avec soi-même.
Et avec soi-même, bien sûr, pour mieux vivre avec les autres, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire apprendre à vivre avec les autres, avec soi-même d'abord, donc s'accepter soi-même avec les émotions qui nous traversent chaque jour de notre vie. Mmh. Oui.
Donc c'est surtout avoir un bien-être et être en cohérence avec nous-mêmes. Si on est déjà en cohérence avec nous-mêmes, ben, fatalement, ce sera beaucoup plus facile d'établir une communication avec les autres.
Alors pour terminer justement, parce que ça passe très très vite, hein, quels conseils on peut donner à nos auditeurs auditrices pour déjà bien gérer ces émotions?
Moi, je dirais écouter vos propres émotions, trouver le message, se faire un peu plus confiance dans son intuition, surtout savoir ce que l'on veut et aussi peut-être porter un autre regard sur le monde. Donc on a nos propres, chaque personne, on a nos propres lunettes avec notre façon de fonctionner, mais c'est parfois bon de les enlever et de voir un peu d'une autre façon de voir, être à l'écoute. Moi, c'est le conseil que je dirais, c'est être à l'écoute.
À l'écoute et ouvrir les yeux aussi, vous dites. Hein.
Être à l'écoute et ouvrir les yeux, oui.
Car
se faire plus confiance.
Et se faire plus confiance, effectivement. Oui. Et puis surtout, ouvrir les yeux, car il y a vraiment de belles choses autour de nous. Hein.
Oui, et alors ce que je voulais aussi rajouter, ce qui est très important, c'est que chaque personne, en tout cas tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils s'en rendent compte, toutes les personnes ont en elles les capacités de faire au mieux. Il faut vraiment trouver la clé pour pouvoir s'ouvrir.
Très bien, bon, ça c'est très beau. En tout cas, c'est un livre que je conseille à tout le monde, à vivre ses émotions, l'intelligence émotionnelle pour tous. C'est aux éditions du Dauphin, Rachel Collat et Patrick Merleved. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio.
Merci Victoria.
À très très vite en tout cas, et merci encore. Au revoir.
Merci aussi, au revoir.
Sud Info Midi, le MAG, jusqu'à 15h sur Sud Radio.